Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici c'est Jean-Joseph Maglia, la parole est à vous. Donc aujourd'hui, on a choisi un petit peu de coller un peu, on va dire, à l'actualité, puisque le 31 mars dernier, il y a eu une conférence à Épinal organisée par les Shifters, donc le groupe des Shifters. On avait eu David. Qui étaient venus, David et Alexandra, nous parler lors de l'émission précédente sur le rôle des élus dans l'environnement. Donc, le 31 mars, les Shifters organisaient une conférence sur la santé. Alors, sur la santé, c'est-à-dire, en fait, en considérant que l'objectif est de diminuer nos émissions de carbone de 80% d'ici à 2050, eh bien, quelle va être la contribution du secteur santé? Comment le secteur de la santé en général peut arriver à cet objectif de diminuer ses émissions de carbone de 80% d'ici à 2050? Donc, en sans doute plusieurs étapes et avec plusieurs thèmes. Donc, nous allons entendre Christophe Clavière, qui est membre des Shifters, membre de la Commission nationale de réflexion sur la santé, qui va un petit peu nous faire un petit résumé. Et ensuite, donc, deux pharmaciennes de l'Omédit, qui est un organisme émanant de l'Agence régionale de santé, qui a lancé un projet. Donc avec des financements derrière pour proposer à des structures hospitalières ou non hospitalières de soins dans le secteur de la santé, en tout cas, pour les amener à réfléchir et à construire des projets par rapport à cette histoire de décarbonation du secteur de la santé. Et ensuite, je ferai un petit résumé du reste de la conférence. Voilà.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat-plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien content.
Alors, concernant le sujet du cercle thématique santé des Shifters, juste pour expliquer un petit peu le parcours qui m'y a amené, je suis gastro-entérologue libéral à Épinal. J'ai été amené à participer à une fresque du climat entraînée par des amis et je me suis intéressé un peu aux shifters et j'ai vu qu'il existait un congrès national qui s'appelait Santé 2050, première édition, qui s'intéressait aux conséquences du climat sur la santé et inversement. Et par curiosité, je suis allé assister à ce congrès qui a été vraiment révélateur pour moi avec une façon d'aborder le problème sous plein d'aspects, facettes techniques, éthiques, médicaux, et c'était vraiment une prise de conscience du fait que le réchauffement climatique était déjà là. On le voit en France avec des maladies qu'on n'était pas censé voir chez nous, qui sont exotiques comme la dengue par exemple, hein, mais aussi des épisodes de canicule qui se multiplient, et à chaque fois c'est quand même la même mortalité qu'une épidémie de grippe saisonnière. Donc ça a toujours existé, mais là on est obligé de se rendre compte que c'est de plus en plus fréquent. Donc il y avait vraiment des choses qui se passaient. En tant que médecin, on se sent un peu concerné pour savoir comment réagir à ça, et c'est l'occasion de découvrir qu'on participait nous-mêmes par nos activités de soins à des émissions de gaz à effet de serre qui comptent pour à peu près 8% de celles qui sont émises en France et qui participent donc à ce réchauffement climatique contre lequel on est amené à réagir. Donc on se retrouve un peu dans une position de shadow qui est un peu inconfortable et ça amène à s'interroger sur nos pratiques. Et c'était le Shift Project qui a fait tout un travail sur ce sujet avec un rapport qui a été vraiment très très détaillé sur les différents postes d'émissions dans la santé avec des propositions de plans pour réduire ces émissions, pour respecter les accords de Paris qui visent à réduire l'amplitude d'augmentation des températures moyenne du climat. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à discuter avec différents médecins et d'autres soignants et des citoyens simplement un peu préoccupés par cette question et qu'on organise ce congrès ce soir à Épinal pour un petit peu faire le point sur ce qu'on sait, sur ce qui peut être envisagé de manière très modeste. Bon, on sera obligé de se limiter pour l'instant à l'aspect réduction des effets des gaz à effet de serre par l'exercice du soin. Mais ça mériterait aussi d'autres réunions sur l'adaptation du système de santé aux conséquences du réchauffement climatique, que ce soit chronique ou aigu, avec les épisodes climatiques extrêmes aussi qui vont avec, quoi. Voilà,
donc le groupe national des shifters donc réfléchit sur la globalité de la santé, et donc la société est divisée en différents secteurs et chaque secteur doit contribuer à l'effort, hein, puisque l'effort est important, puisqu'il faut arriver à baisser les émissions de CO2 de 80%, hein, d'ici 2050. Donc le plus simple, c'est d'analyser de manière rationnel secteur par secteur, et donc le secteur de la santé, donc comme tu disais Christophe, donc représente une quantité d'émissions à gaz à effet de serre, donc avec différents compartiments. Donc il y a le compartiment utilisation des médicaments et fabrication des médicaments, mais il y a aussi le personnel, les déplacements du personnel, les gens qui travaillent, est-ce que il faut augmenter les téléconsultations, enfin il y a tout un tas d'analyses qui sont faites sur l'impact carbone de chaque activité dans le domaine de la santé et comment on peut faire des efforts pour graduellement avancer avec cet objectif-là de 2050.
Alors effectivement, on connaît un peu les différents compartiments, on sait que la part de la participation aux émissions de gaz à effet de serre de la santé, c'est pour 87% des émissions indirectes. Il y a 50% qui est représenté juste par le médicament et les dispositifs médicaux. Donc il y a aussi un gros effort qui reviendrait aux industriels et à l'industrie pharmaceutique. Mais on ne serait pas exempt du tout dans notre pratique médicale, évidemment, avec le personnel et tous les soignants, mais aussi les patients, qui auraient aussi peut-être une responsabilisation à envisager dans ce domaine. Alors il y a aussi un gros effort à faire sur ce qu'on appelle la promotion de la santé, prévention et juste soin, qui viserait à encourager les attitudes de prévention et de dépistage, qui vont réduire des activités de traitement qui sont beaucoup plus impactantes, avec de la chirurgie et des traitements plus lourds. Donc tout le monde serait gagnant, hein, la qualité de vie des patients, la survie des patients. Je pense que l'économie de la santé serait gagnante aussi, et l'impact environnemental aussi. Donc c'est vraiment, il y a des convergences et des synergies qui devraient assez rapidement se mettre en place dans ce domaine. Voilà,
contrairement à ce qu'on pense, en fait, souvent, il y a effectivement une convergence avec effectivement ce qui est bon pour l'environnement, est bon aussi pour la santé, et est bon aussi pour l'économie.
Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé.
produits laitiers, du calcium pour nos consolider. Légumes frais, soupe soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse.
Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais et souples le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Et la vie est merveilleuse. Et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Savoure tout en petite quantité, je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme en bonne santé, toujours en forme. Je prends mes profils laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse.
Bonjour, je suis Virginie, je suis pharmacien à l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique du Grand Est. Il s'agit de l'acronyme OMEDIT. C'est un observatoire qui s'occupe au niveau régional d'une politique de bon usage du médicament et de lutter contre la iatrogénie. Et du coup, nous intervenons auprès des professionnels de santé pour les accompagner au meilleur usage du médicament. Dans le cadre de la conférence des shifters à Épinal le 31 mars, nous sommes intervenus sur le sujet de la déprescription en la voyant dans un cadre un peu plus large, c'est-à-dire que avant de déprescrire un médicament, on vous expliquera de quoi il s'agit. Il s'agit de mieux utiliser les médicaments, donc lorsque c'est possible de ne pas prescrire de médicaments et de préconiser plutôt des dispositifs comme améliorer l'alimentation des patients, l'hygiène de vie, l'activité physique et du coup d'avoir moins de ressources à dépenser sur tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux. Avant de déprescrire, il s'agit de mieux prescrire, c'est-à-dire d'éviter l'usage de médicaments, par exemple chez le sujet âgé, qui peuvent, au bout de quelques années, avoir une balance bénéfice-risque défavorable. Ou encore d'éviter des cascades médicamenteuses avec le fait de represcrire un médicament en pensant que l'effet indésirable du premier médicament est un nouveau symptôme avec une cause identifiée. Avant de déprescrire, il s'agit d'éco-prescrire. Et nos collègues de la région Normandie ont édicté quatre piliers pour favoriser l'éco-prescription, c'est-à-dire mieux prescrire, prescrire des molécules avec un impact carbone moindre et prescrire des molécules qui ont un moindre impact sur l'environnement, en particulier sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité au niveau de l'environnement. Et enfin, on va aborder le sujet de la déprescription.
Juste une petite parenthèse, effectivement, le devenir des médicaments dans l'environnement, les stations d'épuration, elles traitent tout un tas de choses, mais en fait, finalement, les médicaments, ils continuent leur vie dans le fleuve après. C'est comme ça d'ailleurs qu'on mesure parfois la consommation d'un certain nombre de choses en analysant les eaux des fleuves.
Du coup, moi, j'accompagne Virginie, je suis Athénaïs, hein, je travaille avec elle à l'Omédit et mon sujet, hein, on l'a dit beaucoup le mot, hein, Allomédite, c'est plus particulièrement la déprescription médicamenteuse. Donc derrière ce mot, hein, qui en fait n'est pas nouveau, hein, et qui a été dès les années 90 promu notamment, hein, par un Français, Patrice Conneau, derrière le principe primum non nocere, qui guide les médecins, donc en premier lieu ne pas nuire. L'idée, c'était de dire que parfois, hein, la plupart du temps, les médicaments soignent et font du bien, mais dans certains cas, les médicaments peuvent aussi nuire, hein, et les risques dépassent les bénéfices, et dans ce cas-là, il faut les déprescrire, donc les réduire, voire les arrêter. Tout ça évidemment dans une démarche, hein, coordonnée avec le patient, hein, c'est jamais le prescripteur seul qui impose, hein, mais tout se fait évidemment dans une alliance thérapeutique. Donc voilà l'idée, hein, sur la déprescription médicamenteuse, hein, pour que ça puisse rentrer dans les pratiques, c'est évidemment de sensibiliser à la fois les professionnels de santé sur le fait que ça existe, et également les patients. Je pense que c'est intéressant de dire qu'une idée reçue qu'on a, c'est que les patients sont réfractaires à cette démarche. En fait, il y a des études, hein, dont une qui a été commanditée par l'assurance maladie en 2024, qui prouve que 9 Français sur 10 accepteraient, hein, de ne pas avoir de médicaments, hein, si à la place on leur donnait des conseils, que le médecin les accompagnait. Donc voilà, dans un premier temps, poser la question, hein, de cette utilité. Un jour, le médicament est utile, est-ce qu'il l'est toujours? Peut-être pas. Donc voilà, poser la question. Et après, évidemment, le prescripteur a besoin peut-être qu'on l'aide. Et pour ça, à l'Omédite, nous, on essaye d'outiller les professionnels de santé. Donc on crée des journaux où on parle de certaines classes thérapeutiques, hein. On sait que par exemple plus de 50% des inhibiteurs de la pompe à protons, donc qu'on appelle les IPP, on retrouverait pas, hein, l'indication, donc a priori ils devraient pas être prescrits, pour autant ils sont pris par les patients. Donc par exemple on essaie d'accompagner cette déprescription des IPP. On fait la même démarche sur d'autres classes thérapeutiques, hein, les benzodiazépines, hein, par exemple, dont la consommation a nettement augmenté, hein, notamment suite au Covid, et avec voilà, malheureusement les mauvais chiffres qu'on a sur la santé mentale des Français. Donc c'est un enjeu. Et puis après on s'intéresse aussi à des situations où parfois les médicaments peuvent poser problème. On a des médicaments qui peuvent causer des chutes, hein. On sait que c'est quand même un enjeu avec une population vieillissante, voilà, avoir des impacts peut-être cognitifs, on pense à la charge anticholinergique. Et après, hein, pour toujours faire le lien avec le sujet de l'environnement, je pense que on travaille aussi sur la déprescription au contexte de chaleur, parce que voilà, plus les années passent avec le réchauffement climatique, plus les canicules vont s'intensifier, hein, en termes de fréquence et d'impact. Et donc il y a aussi des moments, hein, puisque le corps n'arrive pas à supporter cette chaleur, et donc certains médicaments seront plus appropriés pendant ces grandes chaleurs, et donc il faudra les enlever. Donc là aussi on essaye d'accompagner les professionnels de santé à déprescrire ces classes médicamenteuses, tout ça évidemment dans un objectif de santé, hein, pour les Français, parce que nous c'est ça notre perspective.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables, si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration? S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions? On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines? Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?
Virginie et Athénaïs, donc pharmacienne qui travaille pour l'Agence régionale de santé. Donc Julie Lardet, qui est anesthésiste réanimateur donc au centre hospitalier régional Mestillonville, donc est intervenue pour expliquer. Donc ils avaient répondu à l'appel à projet de l'Agence régionale de santé. Pour imaginer comment décarboner le bloc opératoire. Donc décarboner le bloc opératoire, ils ont réfléchi à différentes choses et ils sont arrivés à élaborer un projet qu'ils ont appelé projet Green Block. Donc le projet Green Block se fait en plusieurs secteurs, donc qui sont déjà en cours de mise en œuvre ou déjà mis en œuvre. Tout ça a commencé pour eux d'abord par l'acquisition d'un logiciel analyse du cycle de vie. L'analyse d'un cycle de vie, c'est du coup comment un produit qu'on utilise, par exemple un stylo, toutes les étapes de sa vie, donc de sa fabrication, qu'est-ce qu'il a fallu pour le fabriquer en termes de matières premières, d'énergie, où est-ce qu'il a été fabriqué, ensuite son acheminement, s'il a été fabriqué en Chine, déjà il a été fabriqué peut-être avec comme énergie le charbon. Ensuite, il a fallu qu'il voyage jusqu'à nous. Et ensuite, quelle va être son utilisation? Est-ce que son utilisation va générer du carbone? C'est le cas pour certains outils, certains... Et ensuite, Quand on a fini de l'utiliser, quelle va être sa fin de vie? Est-ce qu'il va être recyclé? Est-ce que son recyclage va nécessiter de l'énergie? Est-ce qu'il va polluer? Enfin, etc. Hein? Donc voilà, c'est un peu la base de l'étude en fait, de l'impact environnemental et en termes de carbone. Donc, le premier poste qu'ils ont essayé de gérer, c'est l'optimisation des achats de médicaments et de ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, avec en particulier, dans certains cas, on va considérer que c'est un peu un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on est passé à beaucoup d'utilisation de l'usage unique. Donc on utilise et on jette. Donc pour certains usages, pour certains types de matériel, eh bien, il est possible de le réutiliser comme on faisait autrefois. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils sont revenus à du matériel qui est plus durable. Le deuxième poste se concerne la désinfection. Et ils ont, pour éviter en particulier d'utiliser beaucoup de lingettes jetables, on sait très bien que les lingettes jetables sont utilisées en grande quantité et en plus posent des problèmes au niveau des évacuations, des stations d'épuration, etc. Donc en mettant en place une désinfection par les ultraviolets pour certains matériels. En troisième, eh bien, c'est le problème des consommations de gaz. Les consommations de gaz, en particulier les gaz anesthésiants, comme le protoxyde d'azote. On sait que le protoxyde d'azote, quand il part dans l'atmosphère, eh bien, il a un pouvoir de gaz à effet de serre bien supérieur au dioxyde de carbone. Donc, du coup, l'idée, c'était d'arrêter ou de diminuer la consommation de gaz. Donc ça a commencé par l'acquisition de respirateurs à faible consommation de gaz anesthésiant. Et l'idée peut-être après, c'est de passer à une autre étape qui utilise des poudres solides plutôt que du gaz. Voilà. En quatrième partie, ils nous ont présenté donc la réduction de consommation d'énergie en utilisant pour l'éclairage du bloc opératoire des LED, comme on fait avec les lampes de rue, on remplace l'éclairage habituel par des LED. En cinquième, c'était la réduction des déchets, un travail sur la réduction des déchets. Et en sixième partie de leur plan, de leur projet, eh bien, il y avait la formation de l'ensemble des acteurs et la diffusion de bonnes pratiques. Tout ça, donc, c'est en fait ce qu'on appelle un projet d'éco-conception du parcours chirurgical. Voilà pour ce qui concerne l'intervention de Julie. Ensuite, donc, Christophe Clavière est intervenu donc, pour revenir sur sa spécialité qui est l'endoscopie et l'hépatogastro-entérologie. Donc, il a cité l'exemple du cancer du côlon, pour lequel on fait des endoscopies. En fait, les endoscopies, on les fait quand on a une suspicion de cancer du côlon pour faire un état des lieux et éventuellement traiter. Mais en fait, on pourrait beaucoup les éviter si les gens faisaient beaucoup plus que maintenant, donc les dépistages du cancer colorectal. Alors le département des Vosges, grâce à tout un tas d'actions de promotion, en particulier par la Ligue contre le cancer, donc il y a un département qui répond beaucoup, puisqu'il y a quand même 37% du public concerné qui fait ce dépistage, mais c'est pas encore suffisant, il y a encore tous les autres qui si les dépistages étaient faits correctement, on diminuerait le recours à l'endoscopie et du coup on ferait des économies financières, des économies de temps médical et professionnel et des économies en termes de santé. Une population en bonne santé, effectivement, elle coûte moins cher sur tous ces plans-là. Et là, l'environnement rejoint le financier. Donc, du coup, effectivement, là, on arrive à un peu la dernière étape de la décarbonation, qui est effectivement, on a beau jouer sur le matériel utilisé, les médicaments, quels sont les médicaments qui sont produits avec moins de carbone. On les produit en France avec de l'électricité décarbonée plutôt qu'en Chine avec une électricité fabriquée beaucoup avec du fossile. Eh bien, ensuite, donc, il y a le fait que, effectivement, la prévention est un outil indispensable et il faut absolument que d'ici à 2050, on ait avancé beaucoup plus sur la prévention. Donc, en agissant sur l'alimentation, hein. Donc l'alimentation, on rappelle, bah, c'est moins de viande, hein. Plus de protéines végétales, hein. Ça c'est un très fort impact à la fois sur la santé et sur l'environnement, mais c'est aussi l'activité physique, hein. Avoir une activité physique régulière et suffisante, et c'est aussi tout ce qui est vaccination et prévention par les dépistages. Voilà. Donc cette prévention, la promotion de la santé, doit absolument se développer. Une population en bonne santé et le plus longtemps possible, hein, est une population qui vit mieux, hein, et qui coûte moins cher, en termes de dépenses de santé. Voilà. Après, il y a un moment donné où effectivement, les choses peuvent se dégrader, mais ça, on n'y peut rien. En tout cas, l'objectif de santé, de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, rejoint l'objectif environnemental de diminuer la contribution du secteur de la santé à l'émission de gaz à effet de serre et au changement climatique. Voilà, donc c'est à peu près le tour de la conférence qui a eu lieu. On peut retrouver des renseignements donc sur le site en particulier du Shift Project. Donc Shift, ça s'écrit S-H-I-F-T, et puis plus loin, Project, P-R-O-J-E-C-T. Voilà, bonne soirée à vous et à une prochaine fois. Au revoir, merci de votre écoute.